Bienvenue sur cette nouvelle capsule d'information astronomique du planétarium Rio Tinto Alcan pour le mois de mars 2022. En ce mois de l'équinoxe du printemps, la Lune nous guidera vers quelques objets célestes et phénomènes astronomiques intéressants. Le croissant lunaire se faufilera d'abord entre les Pléiades et les Hyades le 8 mars en soirée, un rassemblement éphémère qui offrira de belles opportunités aux astrophotographes, mais qu'on pourra aussi admirer à l'œil nu ou aux jumelles. Dès le crépuscule, le trio apparaît très haut au sud-ouest, puis au fil des heures, il descend graduellement vers l'horizon ouest-nord-ouest, où il disparaît vers minuit. L'amas ouvert des Hyades est le groupe d'étoiles qu'on distingue près de la brillante étoile orangée Aldébaran, dans la constellation du Taureau. Situé à 150 années-lumière, c'est le deuxième amas le plus rapproché de nous. Il est en effet quelques 70 années-lumière plus distant que l'amas ouvert plus ténu de la Grande Ourse, duquel font notamment partie 6 étoiles du fameux astérisme de la Grande Casserole. Environ 1800 étoiles ont été recensées jusqu'à ce jour dans les Hyades, mais la plupart sont trop faibles pour être visibles à l'œil nu. Malgré les apparences, Aldébaran n'en fait pas partie, puisqu'elle se trouve à peu près à mi-chemin entre la Terre et les Hyades, ils ne partagent pas la même origine. Les étoiles qui composent les Hyades sont nées en même temps à l'échelle astronomique, il y a environ 680 millions d'années. Imaginez la Terre à cette époque. La vie sur notre planète était encore primitive, composée essentiellement de plancton, d'algues, d'amibes et des premières éponges. La Terre connaissait aussi ses deux plus grandes glaciations, une période géologique appelée à juste titre cryogénien. Tout récemment, en 2019, on a découvert un immense courant de 600 années-lumière de diamètre autour des Hyades. Composé d'étoiles qui faisaient encore partie de l'amas il y a quelques centaines de millions d'années et qui sont en train de s'en détacher graduellement. Situé à environ 440 années-lumière, l'amas ouvert des Pléiades est un peu plus distant que les Hyades, mais plus jeune avec ses 112 millions d'années. Il est aussi plus facile à remarquer à l'œil nu, étant donné que les étoiles qui en font partie sont concentrées sur une plus petite région du ciel, étant donné sa distance plus grande. On a recensé à ce jour environ 1800 étoiles dans les Pléiades. Là encore, seules 7 ou 8 d'entre elles sont visibles à l'œil nu, et quelques dizaines aux jumelles ou dans un petit télescope. Au moment où les étoiles des Pléiades se formaient, la Terre se trouvait au début de la période du Crétacé. C'était l'âge d'or des dinosaures, et les mammifères, encore discrets, n'occupaient qu'une place secondaire dans les écosystèmes. Au cours des prochaines semaines, la Lune est impliquée dans 2 occultations d'étoiles brillantes observables depuis le sud du Québec. Le 16 mars, en début de soirée, la Lune gibbeuse croissante cachera pendant un peu plus d'une heure l'étoile Eta Leonis, une supergéante située à environ 1300 années-lumière de nous. Il s'agit en fait d'un système binaire, composé de 2 étoiles massives en fin de vie, d'une luminosité extrême. À la distance où elles se trouvent, ces 2 étoiles sont séparées d'environ 1 dixième à 4 dixièmes secondes d'arc seulement, selon l'année. Trop rapprochées pour les distinguer séparément dans un petit télescope d'amateur, mais il est possible de révéler cette nature binaire durant une occultation lunaire, avec un équipement approprié. À Montréal, la disparition a lieu à 19h57 et 4 secondes, heure avancée de l'Est, au bord sombre de la Lune, qui se trouve à 38 degrés au-dessus de l'horizon est-sud-est. L'étoile réapparaît à 21h04 et 20 secondes, derrière le bord éclairé de notre satellite, à 48 degrés de hauteur dans le ciel. Le moment exact de la disparition et de la réapparition peut varier de plusieurs secondes, car il dépend des coordonnées géographiques précises du lieu d'observation. Au cours de la nuit du 18 au 19 mars, ce sera au tour de l'étoile Gamma Virginis de se faire occulter par la Lune gibbeuse décroissante. Gamma Virginis est beaucoup moins lumineuse qu'Eta Leonis, mais à seulement 39 années-lumière, elle est aussi beaucoup plus proche et nous apparaît donc un peu plus brillante. C'est également un système binaire, dont les 2 étoiles ont une masse et une température à peine plus élevées que celles du Soleil. Grâce à des observations détaillées de leur orbite, ce sont 2 des rares étoiles pour lesquelles on peut mesurer précisément la masse en utilisant les lois de Kepler. Chacune a environ 1,45 fois la masse du Soleil. Leur séparation angulaire varie entre 1 et 7 secondes d'arc selon l'année, et il est facile de les distinguer séparément dans un petit télescope d'amateur. À Montréal, la disparition a lieu vers minuit 44 minutes et 9 secondes heure avancée de l'est, derrière le bord éclairé de la Lune à 41 degrés de hauteur au sud-sud-est. L'étoile réapparaît vers 1h 47 minutes et 12 secondes au bord sombre de notre satellite à 43 degrés de hauteur au sud. La Lune poursuit sa course autour de la Terre. Elle traverse les constellations zodiacales et sa phase diminue de jour en jour. Le matin du 28 mars, peu après 6 heures, le croissant lunaire repose sous la resplendissante Vénus, très bas à l'horizon sud-est. Un horizon bien dégagé dans cette direction est essentiel pour apercevoir la Lune. Examinez attentivement le ciel près de l'étoile du matin pour y repérer deux autres points de lumière. Saturne se trouve juste sous Vénus et Mars brille plus discrètement, 5 degrés à droite de ses deux consœurs. Rappelons en terminant que c'est le 20 mars à 11h33 heure avancée de l'Est que se produira l'équinoxe de printemps cette année. Le terme « équinoxe » vient du latin « equinoctium », qui signifie « égal à la nuit », car c'est approximativement aux deux équinoxes que la durée du jour est égale à la durée de la nuit. En fait, nous définissons précisément l'équinoxe comme étant l'un des deux moments de l'année où l'équateur de la Terre se trouve aligné avec le Soleil. C'est-à-dire qu'il existe un endroit sur Terre, le long de l'équateur, où le Soleil passe précisément au zénith. Souvenez-vous que le plan équatorial de la Terre est incliné d'environ 23,5 degrés par rapport à celui de l'orbite terrestre. Si la Terre ne possédait pas d'atmosphère et que le Soleil nous apparaissait comme un petit point sur le ciel, c'est exactement au moment de l'équinoxe que le jour serait de la même durée que la nuit. En réalité, le Soleil nous apparaît comme un disque dont nous voyons encore la partie supérieure quelques minutes après que son centre soit passé sous l'horizon. De plus, notre atmosphère dévie vers nous les rayons lumineux du Soleil encore quelques minutes après que son disque complet soit passé sous l'horizon. En conséquence, au moment de l'équinoxe, la durée du jour dépasse d'une dizaine de minutes celle de la nuit à la latitude de Montréal. Les véritables équinoxes surviennent environ 3 jours plus tôt en mars et 3 jours après l'équinoxe en septembre. Vous retrouverez toutes ces informations et bien d'autres encore dans la section « Se documenter » du portail web de l'Espace pour la vie au www.espacepourlavie.ca. Cette capsule est une production du Planétarium Rio Tinto Alcan. Texte, Jonathan Gagné. Montage sonore, Simon Gauthier. Ici Marc Jobin. Bonnes observations et à la prochaine!